Je passe maintenant à la présentation de notre conférencière, donc Nathalie de Ruel, qui est physicienne. Elle est chercheure à l'Institut des hautes études scientifiques. Concernant son parcours, en 1971, elle est admissible à l'École normale supérieure. En 75, agrégation de physique. De 75 à 77, fellow de l'Agence spatiale européenne à l'Institute of Astronomy de Cambridge. En 82, elle obtient sa thèse de doctorat d'État à Paris 6. Au début des années 90, elle est visiting fellow du Trinity College, Cambridge. En 93, chargée de cours à l'École polytechnique. Et en 2003, visiteur CNRS à l'IHES. Nathalie de Ruel est une spécialiste de la théorie de la relativité générale. Après s'être d'abord intéressée aux ondes gravitationnelles, ses recherches actuelles portent sur la cosmologie. Elle a écrit de nombreux articles dans des revues nationales et internationales. Je lui cède donc maintenant la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un débat avec vous. Merci.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, le titre de la conférence de ce soir, comme vous le savez, est la gravitation. Et ce mot « gravitation » est en fait assez récent. Il a été inventé au XVIIIe siècle pour désigner une loi, une théorie, un cadre de pensée même, qui était tout à fait nouveau et qui jetait pour la première fois un pont entre les phénomènes terrestres et les phénomènes célestes. Et ce pont, c'est la physique de Newton qui a relié Terre et Ciel pendant 250 ans. Mais en 1916, ce pont qui était devenu un petit peu un pont neuf s'est avéré trop étroit pour canaliser toutes les découvertes de la physique moderne. Et il était remplacé par un autre pont que j'aimerais appeler le Golden Gate Bridge, à savoir la relativité générale d'Einstein. Donc l'objet de cette conférence, ça va être de vous présenter ces deux théories de la gravitation et surtout celle d'Einstein. Et j'aurais réussi cette conférence si vous sortez émerveillé de cette salle par la beauté de ces deux théories et aussi avec l'impression, j'espère, d'en avoir compris un petit peu mieux quelques rouages. Et en plus, si c'est une bonne introduction à la fête de la musique qui s'annonce plus tard, j'aurai encore mieux réussi. Donc je vais commencer par présenter ces deux théories, la physique newtonienne et la relativité générale, en les plaçant un peu dans un contexte historique. La science grecque, comme vous le savez, faisait une distinction absolument totale entre les phénomènes terrestres et les phénomènes célestes. Le monde des astres était en fait une réalisation de la géométrie d'Euclide et le mouvement des astres était sans cause et décrit en termes purement mathématiques. Notre monde sublunaire, en revanche, était décrit en termes quasi animistes. Le mot « gravitas », par exemple, avait d'abord décrit une personne digne, pondérée, lourde, avant de désigner la cause de la chute des corps. Et cette dichotomie entre ces deux mondes a duré en fait près de 10 ans. Mais au XVIe siècle, XVIIe siècle, deux révolutions, un petit peu distinctes en fait, ont résolu cette dichotomie. Le premier fauteur de troubles fut Nicolas Copernic, qui eut l'idée, qui n'était en fait pas du tout évidente, de bâtir une nouvelle astronomie en plaçant non pas la Terre, mais le Soleil au centre du système des planètes. Et ce changement de point de vue, d'une part, permit de décrire le mouvement des astres de façon plus économique et plus précise que ne l'avaient fait les Grecs, comme le montra en particulier Kepler de façon éclatante, mais ce nouveau point de vue permit aussi d'accréditer une nouvelle idée, à savoir que si le Soleil devenait le centre de notre monde, à ce moment-là, les autres soleils, qui étaient les étoiles, devenaient eux aussi le centre de leur propre monde. Et vous voyez que par ce changement de perspective, eh bien, la physique sublunaire se mit à étendre de façon considérable son champ d'application, sa portée. Et l'autre révolution est due à Galilée, un grand astronome lui aussi, mais surtout le premier physicien moderne, parce qu'il a dit que le livre de la nature était écrit en termes mathématiques. Et cela signifiait que les mathématiques, en particulier la reformulation par Descartes de la géométrie d'Euclide et du théorème de Pythagore, eh bien ces mathématiques devaient dorénavant s'appliquer non seulement au monde des astres, mais aussi à tous les mondes sublunaires. Donc, comme vous le voyez, cette double révolution a commencé à jeter un pont entre terre et ciel. Mais celui qui bâtit ce pont fut Newton. En 1666, à 24 ans, dans la maison de ses parents où il s'était réfugié pour fuir la peste qui sévissait à Cambridge, il eut une idée vraiment de génie, de se dire que la gravité, c'est-à-dire cette cause à l'origine de la chute des corps terrestres, eh bien cette gravité, cette cause, devait aussi régir le mouvement des astres. Et pour marquer ce gigantesque saut conceptuel, en fait, on inventa bientôt un nouveau mot, ce mot de gravitation, qui décrit cette cause commune, cette force, qui envahit l'espace comme un champ, de la Terre à la pomme à la Lune. Évidemment, il restait à formuler cette belle idée dans un langage mathématique. Et cela prit à Newton 20 ans de travail acharné, que l'on résume maintenant au lycée par deux équations. La première, F égale ma, dit que l'accélération a d'un corps, c'est-à-dire la variation de la vitesse, est proportionnelle à la force F qui lui est appliquée. Et s'il n'y a pas de force, le mouvement est dit libre, l'accélération a est nulle, la vitesse ne varie pas, elle est constante, et le mouvement est en ligne droite, rectiligne, uniforme, comme l'avait déjà montré Galilée, c'est le mouvement dit inertiel. Maintenant, une pomme qui tombe d'un arbre n'a pas une vitesse constante, comme l'avait déjà montré Galilée. Et par ailleurs, la Lune non plus n'a pas une vitesse constante puisqu'elle ne va pas en ligne droite, elle tourne autour de la Terre selon un cercle un peu déformé qui est la fameuse ellipse de Kepler. Et par conséquent, la pomme et la Lune sont donc soumises à une force, F. Cette force qui est la même, qui est la force de gravitation de Newton, et qui est donnée par cette deuxième équation, et qui veut dire en termes mathématiques que cette force est inversement proportionnelle au carré de la distance du centre de la Terre à la pomme, ou la distance du centre de la Terre à la Lune. Alors vous remarquez que quelques lettres sont surmontées d'une petite flèche, et cette petite flèche désigne des objets mathématiques, des vecteurs de Descartes, et ces vecteurs représentent la direction de la force dans l'espace newtonien, l'espace cartésien, à trois dimensions. Alors cette direction, c'est important de le noter, n'est pas repérée par rapport au mur de cette salle, par exemple. Dans cette loi-là, la direction des vecteurs, ces petites flèches, indique une direction repérée par rapport à un repère, dit le repère absolu de Newton, qui est assimilé au repère des étoiles, les étoiles fixes, les étoiles lointaines. Alors ce pont jeté entre ciel et terre par Newton a ouvert une ère nouvelle à la physique qui a connu deux siècles d'or, marqués par un certain nombre d'aspects. Un premier aspect, c'est que ces deux siècles ont été marqués par une formulation mathématique de plus en plus performante des équations de Newton, entre autres par Laplace, qui était un fils de roturier d'un petit village de Normandie et qui a été élevé aux plus hauts honneurs par Napoléon. Ces deux siècles ont aussi été marqués, grâce au travail des mathématiciens, par de spectaculaires découvertes. Par exemple, l'astronome Herschel avait remarqué que la trajectoire de la planète Uranus était un petit peu anormale, c'est-à-dire que cette planète n'obéissait pas strictement aux deux lois de Newton. Et pour résoudre ce conflit, Adams en Angleterre et Le Verrier en France parièrent pour les équations de Newton et se dirent que, en fait, Uranus devait obéir à la loi de Newton, mais il manquait quelque chose qui perturbait la trajectoire de cette planète. Et ils postulèrent donc l'existence d'une nouvelle planète qui s'appela Neptune, et ils calculèrent la trajectoire que devait avoir cette planète postulée pour expliquer le mouvement d'Uranus. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que le verrier, ayant obtenu sa trajectoire au mois de juillet, eh bien, dès le mois de septembre, la planète était découverte par l'astronome allemand Gall. Ces deux siècles d'or furent enfin marqués par le fait que les autres forces que l'on découvrait petit à petit dans les laboratoires, les lois de l'électricité de Coulomb par exemple, les lois du magnétisme, eh bien, semblaient elles aussi pouvoir être formulées dans ce même cadre conceptuel et mathématique que Newton avait construit pour décrire la gravitation au départ, et uniquement la gravitation. Donc on pouvait exprimer les lois de l'électricité, du magnétisme, en termes de vecteurs, des petites flèches, et avec des forces diverses et variées. Donc deux siècles d'or. Ceci dit, le tableau avait cependant quelques ombres, pendant longtemps considérées soit comme des curiosités, ou alors tout simplement ignorées. Par exemple, le coefficient petit m qui apparaît dans la première loi est une masse dite inerte et qui mesure en fait la résistance au mouvement. Alors que le coefficient petit m qui apparaît dans la deuxième équation est appelé une masse grave et elle mesure l'ampleur de la réponse à l'attraction gravitationnelle du corps grand M. Et ces deux masses en fait n'ont a priori aucune raison d'être égales. Or il se trouve qu'elles le sont et que donc tous les corps tombent de la même façon dans un champ de gravitation, parce que quand vous égalez la première équation à la seconde, vous pouvez diviser par petit m, et donc petit m, la masse du corps disparaît. Ces équations et son mouvement ne dépend pas de sa masse. Alors Newton avait été très étonné par ça, et il avait vérifié lui-même à une précision du millième, et comme on va le voir tout à l'heure, cette égalité est à la base de la relativité générale, et donc maintenant, on vérifie que tous les corps tombent de la même façon dans un champ de gravitation, à une précision de 10-12, c'est-à-dire avec une précision 1 milliard de fois supérieure à celle que Newton avait atteinte. Une autre question concernait la trajectoire de Mercure autour du Soleil. En effet, malgré tous leurs efforts, les astronomes, le Verrier en particulier, n'étaient pas arrivés à comprendre parfaitement le mouvement de Mercure. Et l'ellipse de la trajectoire de Mercure tournait un peu plus que prévu par la théorie de Newton autour du Soleil. C'était un petit mystère qui était là, que tout le monde connaissait. Une autre question encore concernait le repère des étoiles fixes dont j'ai parlé tout à l'heure, par rapport auquel on oriente les directions des forces. Il y avait là un problème, parce qu'en effet, dans un premier temps, on n'en avait pas tellement besoin de ce repère des étoiles fixes, parce qu'on pouvait aussi repérer ces directions tout aussi bien par rapport à n'importe quel repère en mouvement libre par rapport à ce repère absolu des étoiles fixes, ce qu'on appelle les repères galiléens ou les repères inertiels. Donc on n'avait pas tellement besoin de ce repère absolu qui pourtant était le fondement de la théorie puisque c'est a priori dans ce repère uniquement qu'on pouvait écrire ces lois. Et par ailleurs, ces étoiles fixes qui étaient censées incarner le repère absolu ne pouvaient pas être fixes, parce que aussi loin soient-elles les unes des autres, elles sont attirées par la force de gravitation, et donc elles ne peuvent pas rester fixes. Et donc on pouvait se demander, et d'ailleurs Newton se l'était posé la question lui-même, on pouvait se demander si tout cet édifice en fait n'était pas un peu bâti sur du sable. Ceci dit, le premier coup de butoir contre la théorie newtonienne vint d'un coin inattendu de la physique. En effet, pendant tous les 18e et 19e siècles, comme je l'ai mentionné, des physiciens comme Coulomb, Faraday, avaient étudié les propriétés électriques, magnétiques de la matière, et Maxwell avait effectué une synthèse magistrale en proposant des équations qui incorporaient toutes ces lois précédentes. Mais ces équations de Maxwell, quand on les faisait parler, quand on les étudiait de près, impliquait que la vitesse de la lumière était la même, 300 000 km par seconde, dans tous les repères libres, en mouvement de translation uniforme les uns par rapport aux autres. Alors ça, c'était un résultat troublant, parce que non seulement c'était contraire à l'expérience quotidienne, mais aussi à la physique galiléenne, qui me dit que si je marche à 3 km à l'heure dans un TGV et que si mon TGV va à 300 km à l'heure par rapport au quai de la gare, eh bien moi je vais à 303 km à l'heure par rapport au quai de la gare. Eh bien, disaient les équations de Maxwell, qui avaient été confortées par toute une série d'expériences, en particulier la célèbre expérience de Michelson-Morley, si je suis un photon, ça n'est plus vrai. Je vais à 300 000 km par seconde par rapport au train et par rapport au quai de la gare. Alors, des physiciens et des mathématiciens éminents comme Lorentz et Poincaré s'étaient efforcés, comme l'a expliqué Françoise Balibar dans la conférence d'hier, s'étaient efforcés de réconcilier la loi de composition des vitesses galiléennes, 303 égale 300 moins 3, plus 3, pardon, réconcilier ce fait, la composition des vitesses galiléennes, et le fait que la vitesse de la lumière était la même dans tous les repères en translation uniforme. Alors en fait, techniquement, Lorentz, Poincaré, réussirent ce tour de force. Prenons par exemple l'équation de Maxwell, carré A égale 0, où A, c'est une fonction des variables Tx, du temps et de l'espace, une fonction qui nous dit où est le photon, à quel moment. Et où le carré, qui s'appelle aussi un d'Alembertien, est une opération, un petit programme, si vous voulez, qui est un programme de manipulation bien défini de cette fonction A. Alors cette équation de Maxwell est valable dans un certain repère, par exemple le repère du quai de la gare. Donc un physicien qui fait des mesures dans le TGV devra en principe travailler avec une autre équation, déduite de la première par les règles du jeu de la physique newtonienne et galiléenne. Donc l'équation n'aura pas la même tête. Maintenant, ce que Lorentz et Poincaré avaient remarqué, en bidouillant cette nouvelle équation, en travaillant en mathématicien sur cette nouvelle équation, ils avaient remarqué qu'en fait, on pouvait la ramener à la précédente, c'est-à-dire à un carré A égale 0, à condition d'introduire de nouvelles variables, T' et X', des variables mathématiques, des variables auxiliaires ou des variables fictives, c'est un changement de variable dans une équation différentielle. Et ces T' et X' étaient liés aux T et X par ces transformations obtenues par Lorentz. Et ils avaient aussi vu que si la vitesse d'un objet était petit c par rapport au train de la gare, ou par rapport au quai de la gare, à ce moment-là, cette vitesse fictive, auxiliaire, définie en fonction de ces variables auxiliaires X' et T', ben cette vitesse était aussi petit c. Donc on voit qu'ils étaient vraiment tout près du but. Mais c'est Einstein, en 1905, qui rendit toute cette construction limpide grâce à une illumination absolument géniale, comme il y en a une tous les deux ou trois siècles, qui fut de se dire « Mais, mon Dieu, c'est bien sûr, cette variable auxiliaire T', c'est pas un artifice de calcul pour transformer une équation, la rendre plus simple. Ce T', c'est tout simplement le temps pur et simple, a-t-il dit, le temps mesuré à la montre du physicien qui est dans le TGV. » Alors cette remarque était tout à fait révolutionnaire parce qu'elle signifiait que contrairement à ce que avait postulé Newton, le temps ne bat pas de la même façon pour tout le monde. Et cette découverte impliquait aussi que de même que la longueur apparente d'une règle, par exemple ça, dépend de l'angle sous lequel je la regarde, et bien de même, comme le dit joliment Jean-Marc Lévy-Leblond, le temps aussi est affaire de perspective et qui dépend du mouvement relatif des observateurs. Et donc le temps et l'espace sont mis ainsi sur le même pied d'égalité et bientôt, avec le mathématicien Hermann Minkowski, on ne parla plus d'espace à trois dimensions euclidien, mais on parla d'espace-temps où le temps devient une dimension, au même titre que la hauteur, la largeur ou la profondeur. Alors les lois de la physique de Newton étaient formulées en termes de vecteurs avec ces petites flèches qui vivent dans des espaces à trois dimensions dans lesquels le théorème de Pythagore vaut. Et à partir de 1905, eh bien, il a fallu écrire toutes les lois de la physique avec des objets qui n'étaient plus des vecteurs cartésiens mais des quadrivecteurs d'autres objets mathématiques formulés dans un espace-temps à quatre dimensions où la distance invariable, qui ne dépend pas du repère où l'on est, entre deux événements, par exemple deux flashs lumineux, eh bien, cette distance est donnée par un théorème de Pythagore généralisé. Mais revenons à la gravitation. Cette force qui fait tomber les pommes et la lune. En 1905, elle était toujours décrite par les lois de Newton. Mais Einstein venait de montrer que le cadre mathématique dans lequel cette gravité de Newton s'exprimait, le cadre newtonien, cartésien, à trois dimensions, était trop étroit pour rendre compte des phénomènes électromagnétiques qu'on avait étudiés sur Terre. Et par conséquent, en 1905, ce pont entre la Terre et le ciel a été rompu. Et ça, pour Einstein, c'était quelque chose de plus important à réparer, si je puis dire, que de se lancer dans la nouvelle aventure de l'époque à laquelle il avait contribué énormément aussi, à savoir la physique quantique. Il a mis toute son énergie pour réparer ce pont entre Terre et ciel. Et il consacra 10 ans de recherche acharnée, vraiment acharnée, pour rebâtir ce pont, pour intégrer la gravitation dans ce nouveau cadre. Alors il découvrit la solution grâce à une autre illumination. Supposez que vous tombiez d'un toit avec votre pomme. Puisque, comme on l'a vu, tous les corps tombent de la même façon, cela signifie que la pomme restera immobile par rapport à vous. Exactement comme si vous étiez dans un astronef loin de toute gravitation. Vous pourrez donc considérer votre mouvement et celui de la pomme comme étant libre, puisque c'est le même que celui dans un astronef loin de toute gravitation et de tout champ. Et pourrez décrire ce mouvement, en fait, comme si votre chute du toit avait effacé la gravitation, comme s'il n'y en avait plus. Ceci étant, il y a de la gravitation, la Terre vous attire. Donc vous ne pouvez pas dire que mon mouvement de chute n'est comme rien, vous ne pouvez pas le dire trop longtemps. Et en fait, vous allez voir pourquoi vite, parce que vous tombez avec votre pomme, mais si vous tombez suffisamment longtemps avec votre pomme, vous allez vous apercevoir qu'en fait, très lentement, la pomme se rapproche de vous. Et ça, c'est une raison très simple, parce que vous et la pomme, vous êtes attirés par le centre de la Terre, et par conséquent, vos trajectoires convergent, et petit à petit, la distance va décroître. Donc le problème qui se présentait à Einstein à ce moment-là, c'était comment réconcilier l'idée de mouvement libre, d'effacement de la gravitation. Un mouvement libre, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc les mouvements libres, les deux trajectoires devraient être parallèles. Donc comment réconcilier cette idée de mouvement libre, rectiligne uniforme à la fois de la pomme et du plombier qui tombe, du couvreur qui tombe du toit, et le fait que les trajectoires en fait convergent. Et alors, eh bien c'était simple, enfin simple, il fallait y penser. On peut réconcilier ces deux idées en supposant que ces mouvements libres ne s'effectuent pas dans un espace plat, un plan par exemple, où deux trajectoires parallèles restent parallèles à tout jamais, mais où ces mouvements s'effectuent dans un espace courbe, où les parallèles éventuellement peuvent se couper. Et ce dessin qui est là représente, si vous voulez, de façon que vous avez certainement déjà vu d'ailleurs plusieurs fois, un espace à deux dimensions qui n'est pas plat, mais qui est courbé, et où les trajectoires ne sont plus nécessairement des droites qui restent tout le temps parallèles. Alors mathématiser ça fut une tâche considérable, dans laquelle Einstein, qui était surtout physicien plutôt que mathématicien, fut considérablement aidé par son grand ami Marcel Grossmann, qui lui expliqua des mathématiques en fait relativement récentes, les mathématiques des espaces-temps courbes dues à Bernard Riemann. Donc, l'idée d'espace courbe, donc, ça veut dire que dans un espace courbe, le théorème de Pythagore devient encore plus compliqué. Et ce théorème de Pythagore vous dit que dans un espace courbe, la distance entre ce point-ci et ce point-là, eh bien, n'est pas donnée par la somme des carrés, comme pour avoir l'hypoténuse, mais que les coefficients ici devant la hauteur au carré, la largeur au carré, la profondeur au carré, les coefficients devant ne sont plus 1, ou moins 1, plus 1, plus 1, plus 1, mais ça devient des fonctions qui peuvent être aussi compliquées que vous voulez, des points et de l'instant où vous vous trouvez. Donc, ce théorème de Pythagore dépend maintenant de 10 fonctions qu'on appelle la métrique, ces 10 fonctions, G0, 0, G0, X, etc., il y en a 10, qui donc décrivent la courbure de l'espace-temps. Maintenant, il fallait, ça c'était bien joli, mais il fallait voir où était la gravitation là-dedans. Et Einstein arriva enfin à ces équations de la gravitation, les équations d'Einstein de la gravitation. Donc les voilà, 1916. Ce G mu nu à gauche représente la courbure de l'espace-temps. Et comme le carré de tout à l'heure, j'avais parlé du carré A, le d'Alembertien A, cette grandeur ici est en fait un petit programme, enfin un programme assez compliqué d'ailleurs, de manipulation de ces 10 fonctions G0, 0, c'est prendre des dérivées partielles, les multiplier, etc. Prendre l'inverse, etc. Quant au membre de droite, le T mu nu, qui est là, il représente la masse énergie des corps qui courbent l'espace-temps. Donc ce T mu nu, c'est un objet mathématique qui représente la Terre ou le Soleil, l'objet qui courbe l'espace-temps. Et enfin, le coefficient devant, là, ce 8 pi grand G sur C4, grand G c'est la constante de Newton, C c'est la vitesse de la lumière, et ce coefficient-là assure que quand l'espace-temps est à peine courbé, eh bien, ces équations d'Einstein se ramènent aux équations de Newton, plus exactement celles de Poisson. Ces équations, donc, sont le Golden Gate Bridge, dont je parlais tout à l'heure, et qui remplace depuis 1916 le pont neuf de la théorie newtonienne. Alors maintenant, dans une seconde partie, je voudrais vous parler des succès de la relativité générale. Alors, d'abord, en intransparent, les tests de la relativité générale en bref, c'est surtout pour vous parler de tout ce dont je ne pourrais pas vous parler, faute de temps. Le premier test, c'est que je vous ai parlé de l'avance du périhélie de Mercure, qui avait été trouvée par Le Verrier et qui a intrigué les astronomes. Eh bien, Einstein, qui pourtant, comme vous l'avez vu, j'espère vous l'avoir un peu indiqué, avait construit sa relativité générale sur une base très conceptuelle, eh bien, quand il a fait parler sa théorie, quand il est allé voir la limite des courbures faibles, il a vu qu'il pouvait prévoir l'ellipse de Kepler, mais avec une petite correction. Et cette petite correction, quand il a fait le calcul, il a trouvé exactement les 43 secondes d'arc par siècle d'avance du périhélie de Mercure qui avait été donnée par les astronomes. Vous imaginez que c'était un grand moment de sa vie, et d'ailleurs il paraît que c'était le plus grand moment, la plus grande émotion scientifique de sa vie, de trouver ce résultat numérique. C'est maintenant, cette avance du périhélie de Mercure maintenant et des planètes est vérifiée au millième près. Une prédiction là, qu'il fit, au tout début de la relativité générale, en 1915-16, fut que, en fait, la lumière elle-même devait épouser la courbure de l'espace-temps et donc ne se propager plus en ligne droite. Elle devait être déviée par les champs de gravitation et légèrement par le Soleil qui courbe à peine l'espace-temps, et qu'une étoile devait, la direction d'une étoile devait être déviée quand elle est, si elle n'était pas, si le Soleil n'est pas là derrière nous, l'étoile est là, disons. Mais si le Soleil est entre nous et l'étoile, ben l'étoile ne sera pas exactement la même position, elle sera un tout petit peu décalée. On peut observer ça lors d'une éclipse totale, parce que sinon on est ébloui par le Soleil. Et ça a été fait et vérifié par Eddington en 1919, avec une précision pas très bonne. Et maintenant, grâce en particulier à la sonde Cassini, qui est allée à visiter Saturne il n'y a pas si longtemps, eh bien, on peut vérifier cette prédiction de la relativité générale au 100 millième près. C'est donc un test particulièrement fort de la relativité générale et qui sert maintenant en cosmologie à étudier parce que on regarde les objets lointains, leurs images sont complètement déformées par la masse intermédiaire entre nous et ces quasars, disons. Et en reconstruisant le chemin de la lumière de nous jusqu'à ces objets très très lointains, on peut en inférer la masse entre eux et nous qui dévie cette lumière, et on peut donc avoir une estimation de la masse de ces masses des galaxies, en particulier de la matière que l'on ne voit pas. Probablement François Boucher, dimanche, a parlé de ce type d'expérience en cosmologie. Un autre test de la relativité générale, c'est le redshift gravitationnel. En 1905, Einstein avait dit que les montres ne battaient pas toutes de la même façon, en fonction du mouvement relatif des observateurs, même en l'absence de gravitation. Mais si en plus il y a un champ de gravitation, il y a un second effet qui s'additionne au premier et qui dit que les montres ne battent pas de la même façon quand on est dans des champs gravitationnels différents. Donc je suis ici sur Terre, j'ai un satellite juste au-dessus de ma tête qui ne bouge pas par rapport à moi, et bien la montre dans le satellite ne battra pas comme la mienne. Et ça, c'est un effet qui a été vérifié par Pound et Rebka en 1963, la première fois, qui maintenant est tellement connu qu'en fait, il a été absolument indispensable d'intégrer ces effets de redshift gravitationnel et de ralentissement des horloges dû au mouvement dans le programme du Global Positioning System, qui ne marcherait absolument pas si on ne tenait pas compte de ces corrections de relativité restreinte et générale. Donc voilà ces effets. L'effet Shapiro, enfin, est un effet qui est dû au fait que si je suis ici sur Terre et que j'envoie un signal laser sur la Lune ou un signal radar sur une sonde, par exemple de nouveau la sonde de Cassini, et que ce signal revient vers moi, eh bien le temps que mettra ce signal pour faire l'aller-retour a une certaine valeur dans le cas de la physique newtonienne, parce que dans le cas de la physique newtonienne, la lumière va en ligne droite, et elle n'est pas déviée. Mais dans le cadre de la relativité générale, la lumière est déviée et il y a aussi des effets de ralentissement dus à la présence du champ de gravitation. C'est l'effet dit Shapiro. Donc voilà ces tests dont je ne vous parlerai pas, sauf si vous me posez des questions précises à la fin de cet exposé. En revanche, je voudrais consacrer quasiment tout le reste de mon temps aux tests de la relativité générale concernant les ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, donc c'est une longue histoire, elles ont été détectées, et je vais vous expliquer, vous raconter un peu l'histoire de ces détections. Elles ont été détectées grâce à ce qu'on appelle des pulsars binaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pulsar ? Un pulsar, c'est une étoile à neutrons, c'est-à-dire une étoile extrêmement dense, dont la densité de l'ordre de la densité de la matière nucléaire, qui donc, pour deux ou trois masses solaires, a un rayon de quelques kilomètres, comparé à quelque chose comme le million de kilomètres, cent de milliers de kilomètres, je ne sais plus, du rayon solaire, c'est extrêmement peu petit. Et ce sont des étoiles qui, visiblement, possèdent un champ magnétique extrêmement fort, la Terre aussi, mais enfin, les étoiles à neutrons infiniment plus fort. Et ces étoiles à neutrons tournent sur elles-mêmes, mais le champ magnétique n'est pas aligné avec l'axe de rotation, et donc le champ magnétique tourne comme ça autour de l'axe de rotation à la fréquence de rotation de l'étoile. Et ces étoiles peuvent tourner sur elles en une milliseconde. La Terre tourne sur elle en 24 heures, certaines de ces étoiles tournent sur elles, des étoiles, en une milliseconde. Et ce pinceau de magnétique qui éjecte des particules et qui ensuite se transforme en ondes, souvent radio, peut même être perpendiculaire à l'axe de rotation. Donc s'il est perpendiculaire à l'axe de rotation, c'est vraiment le gyrophare des voitures de police. Et à chaque rotation, si vous êtes dans l'axe, vous avez un pinceau lumineux qui vous passe sous les yeux. Alors, un pulsar binaire, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un ensemble de deux étoiles, un pulsar que l'on voit, et puis qui visiblement tourne autour d'un autre objet. La plupart du temps, on ne le voit pas, l'autre objet. C'est probablement aussi une autre étoile à neutrons, mais qui ou bien n'a pas de faisceau lumineux, ou bien son faisceau lumineux pointe dans une direction qui n'est pas celle de la Terre. Et alors, ces faisceaux lumineux, la radio, arrivent sur des radiotélescopes. Par exemple, ici, c'est le radiotélescope d'Arecibo à Puerto Rico. Donc, qu'observe-t-on dans ces observatoires radio ? On observe en fait des bip-bip qui est chaque fois, enfin un bip, un éclair lumineux, je vais l'appeler un bip, chaque fois que le gyrophare passe devant vos yeux toutes les millisecondes. Mais si ce pulsar tourne autour d'une autre étoile, eh bien ce gyrophare s'éloigne de temps en temps d'Arecibo, se rapproche d'Arecibo, s'éloigne, se rapproche en fonction de son mouvement autour de l'autre étoile. Et par conséquent, les bip bip ne seront pas parfaitement réguliers. Ce sera bip 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 bip, enfin vous voyez, dû au mouvement relatif. Et à ce moment-là, il faut aller chercher l'information dans la distribution de ces bip bip pour savoir quelle est la trajectoire exacte du pulsar. Alors, je vais vous montrer peut-être un petit film qui est dû à M. John Rowe. Alors, vous voyez un pulsar et qui tourne autour de l'autre, et ces petits grillages, là, ça illustre les petites vagues d'ondes gravitationnelles qu'émettent cet objet, parce qu'en tournant l'un autour de l'autre, évidemment, ils déforment l'espace-temps, et ces petites déformations de l'espace-temps se propagent jusqu'à l'infini. Donc voilà ce petit film. Vous voyez, de temps en temps, le faisceau éclaire l'autre. En fait, ce pulsar double est celui qui a été découvert le plus récemment, en 2003. Et en fait, on a pu voir le faisceau de l'autre pulsar aussi. Donc c'est un pulsar binaire double, puisqu'on voit les deux faisceaux. Donc voilà une illustration de ce mouvement dont je vous parlais. Mais maintenant, les films d'animation à la Walt Disney, c'est très bien, mais le travail des physiciens, ça n'est pas de faire des films d'animation, mais d'extraire de ces signaux, de prédire ces signaux. Alors comment fait-on ? Ces équations, en fait, sont simples. La première vous dit le moment, c'est la phase de ce pulsar. Ça vous dit que le bip numéro 1 arrivera à l'instant T0, le bip numéro 2 arrivera à nu T, etc. Donc c'est là le temps d'émission des bips. Et c'est en fonction du temps T qui est le temps qui vaut dans le repère où le pulsar tourne sur lui-même. Mais ce temps-là n'est pas le temps du laboratoire d'Arecibo. Parce que le temps du laboratoire d'Arecibo, il faut tenir compte des effets sur les ralentissements des horloges, etc., non seulement dans le système solaire, oublions ces effets, mais beaucoup plus important, les effets dans le système binaire lui-même des deux étoiles. Alors ces effets, c'est quoi ? Le premier, ça s'appelle l'effet Rohmer, qui est expliqué là, et là, c'est simplement une formule newtonienne, même si elle a l'air un peu compliquée. On l'appelle Rohmer parce que ça décrit simplement le fait que la lumière, quand elle part du pulsar, et que donc le pulsar tourne autour, eh bien la distance à parcourir pour aller à Arecibo est un peu plus grande quand le pulsar est derrière, enfin est loin, et un peu plus faible quand le pulsar est plus près d'Arecibo, parce que la vitesse de la lumière n'est pas infinie, c'est 300 000 km par seconde. Donc ça, c'est un effet qui existe en physique newtonienne et qui avait déjà été utilisé en particulier par Rohmer pour calculer la vitesse de la lumière. Et c'est donc l'effet newtonien, à part si vous faites ces petits deltas nuls, ces petits deltas, c'est des corrections dues à la relativité générale. Le deuxième effet s'appelle l'effet Einstein, avec un facteur gamma devant, et c'est l'effet que l'on doit utiliser pour que GPS marche. C'est donc un effet qui combine à la fois les effets de retard dû au champ de gravitation et à la vitesse du binaire. Et enfin, le dernier terme, delta Shapiro, S comme Shapiro, c'est cet effet dont je vous parlais, qui a été mesuré avec une très grande précision avec la sonde Cassini, dû au retard que prend la lumière dans le champ de gravitation de l'autre. Bien, alors tout ça, en fait, ça s'exprime, la partie la plus simple s'exprime avec les lois de Newton, c'est de la physique purement newtonienne, mais en revanche, pour avoir ce terme E, ce terme S, eh bien, il faut travailler les équations d'Einstein, les développer, comme on dit, au plus bas ordre, pour pouvoir prédire le changement de trajectoire, l'avance du périhélie et d'autres déformations de la trajectoire dues aux effets de relativité générale. Voilà. Alors, une fois qu'on a ces formules, eh bien, que fait-on ? Ces formules dépendent, vous voyez, de facteurs gamma, RS, je n'ai pas dit combien ça valait, ça. Je les ai laissés libres, ça s'appelle des paramètres post-kepleriens, et ces effets vont moduler la fréquence des bips. Donc en étudiant la fréquence des bips, la distance, les bip, 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 très en détail, vous allez pouvoir mesurer ces différents paramètres. Et voilà ce que l'on trouve pour le dernier pulsar trouvé en date. Alors évidemment, la quantité de données là-dedans, mais il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, évidemment. Par exemple, l'avance du périastre, c'est-à-dire le fait que l'ellipse tourne autour de l'autre, eh bien, est de 16,9 degrés par an, alors que Mercure, c'est 42 secondes d'arc par siècle. Donc vous voyez que ce sont des effets beaucoup, beaucoup plus forts que dans le système solaire. Il y a aussi là la période orbitale, en jours. 0,1 jour, ça fait à peu près 2 heures et quelques. Alors la Terre met 365 jours pour tourner autour du Soleil, et bien ce pulsar, lui, met 2 heures pour tourner autour de l'autre. Et voilà les autres paramètres donc qui sont mesurés avec des grandes précisions. Et puis, ce P point, B, là, qu'est-ce que ça représente? Ça représente, à l'ordre le plus bas, à l'ordre newtonien, c'est une ellipse. Cette ellipse tourne un petit peu sur elle-même, c'est l'avance du périastre, mais aussi, au cours du temps, elle rétrécit petit à petit. Elle rétrécit, comme on va le voir, parce qu'elle perd de l'énergie, le système perd de l'énergie. Cette énergie, ce sont ces petites friselures de l'espace-temps que vous avez vues partir vers l'infini, ce sont les ondes gravitationnelles. Donc le système émettant des ondes gravitationnelles perd de l'énergie et le système rétrécit. Et ce P point, là, mesure ce rétrécissement de l'orbite, qui est en 10-12, hein, c'est un effet extrêmement faible. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on mesure. Maintenant, qu'est-ce que prédit la relativité générale? La relativité générale prédit les formules que je vous ai dit tout à l'heure, plus les expressions exactes de l'avance du périastre en fonction des masses des objets, l'effet Einstein aussi en fonction des objets, le rétrécissement de l'orbite donné par la formule du quadrupôle d'Einstein, aussi en fonction de l'excentricité, etc. Et puis les paramètres de l'effet Shapiro. Donc vous voyez que tous ces effets-là, finalement, si on se donne la période de 2h55, par exemple, 2h, là, eh bien dépendent des masses MA et MB. Donc vous pouvez faire des tests de la relativité générale, que voici, où vous mettez en ordonnée la masse de l'objet B, en abscisse la masse de l'objet A. Vous connaissez la valeur, puisque vous l'avez mesurée, par exemple de l'avance du périastre, oméga point, eh bien vous pouvez exprimer, ça c'est une fonction connue de MA, de M et de MA et MB, et donc vous pouvez dessiner cette courbe, et pareil pour les autres, avec des barres d'erreur. Donc on peut faire ainsi des tests indépendants de la relativité générale, et pour ce système particulier-là, le meilleur test, c'est vérifier la relativité générale au millième. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Vous avez un système de deux pulsars qui sont à des dixièmes de milliers d'années-lumière et vous vérifiez une théorie bâtie en 1915 au millième près. Et donc cette mesure du rétrécissement de l'orbite, en fait, a été noté pour la première fois sur le premier pulsar double découvert en 1974 par Hulse et Taylor, donc il y a 30 ans. Et pendant 30 ans de données, cette courbe mesure en fait le rétrécissement de l'orbite, l'orbite rétrécit, et la courbe, enfin il y a les points expérimentaux, observationnels, et la courbe c'est la prédiction de la relativité générale. Et au bout de 30 ans d'observation, enfin envoyé en 2004, pour fêter les 30 ans, eh bien l'émission d'ondes gravitationnelles par un système binaire a été mesurée à 2 millièmes près. Alors cette découverte qui avait été prédite par Einstein en 1918 et vérifiée donc dans les années 90 a valu à Hulse et Taylor le premier prix Nobel de relativité générale. En 1993. Donc les ondes gravitationnelles existent, on les a observées en observant le mouvement du pulsar binaire. Ces ondes gravitationnelles existent et donc vont ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers, et à condition qu'on puisse maintenant les détecter sur Terre, ces ondes gravitationnelles. Pour l'instant, on a vu le rétrécissement de l'orbite, on n'a pas encore vu les petites friselures d'espace-temps arriver sur nos détecteurs. Alors, quand est-ce que ces petites friselures de l'espace-temps, tant que les deux étoiles sont relativement loin l'une de l'autre, sont beaucoup trop faibles quand elles arriveront sur Terre pour qu'on ait espoir un jour de les détecter. En revanche, puisque le système perd de l'énergie et que les deux étoiles se rapprochent petit à petit, il va arriver un moment où elles vont être de plus en plus proches l'une de l'autre, et à ce moment-là, le système va émettre énormément d'ondes gravitationnelles, et c'est ça qu'il faut essayer de calculer. Donc, voilà un petit film de nouveau qui est censé décrire le moment où les deux étoiles coalescent. C'est-à-dire qu'elles ont perdu de l'énergie pendant 1 million d'années, et maintenant elles coalescent. Donc vous voyez, il leur arrive des choses affreuses. Elles font des flashs divers et variés, mais voyez les frisures de l'espace-temps, comme ça devient, oups, et ça formait un trou noir. Et vous voyez les restes du trou noir, qui des ondes gravitationnelles émises, et ça, on peut espérer l'observer sur Terre. Là encore, je vais vous montrer des équations, parce que ça, c'est pour illustrer, mais ensuite, il faut le calculer. Donc, étant donné qu'on pense que ça sera observable, ces choses-là, eh bien, il y a un effort gigantesque international actuellement pour construire des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Voici Virgo, le projet franco-italien, et puis il y a des projets américains, un projet en Allemagne, un autre au Japon. Et que ces détecteurs, quelle est l'idée derrière? Eh bien, en fait, ces détecteurs, ce sont des bras qui font 3 km de long à peu près, dans lesquels la lumière laser se propage et va se réfléchir au bout, revenir, réfléchir, etc. À peu près 300 fois. Et cette lumière donc fait des centaines d'allers-retours et puis se combine au centre, ça s'appelle des interféromètres de Fabry-Perot, se combine au centre en un creux de lumière, ce qu'on appelle une frange noire. Mais maintenant, s'il y a une onde gravitationnelle qui passe, parce qu'il y a un système binaire qui a coalescé il y a 17 000 ans, et donc maintenant les ondes gravitationnelles nous arrivent, et bien au passage de l'onde gravitationnelle, les miroirs extrêmes vont bouger légèrement, et à ce moment-là, une frange de lumière au centre va apparaître et disparaître, parce que le Fabry-Perot ne sera plus réglé sur une frange noire, les miroirs ayant bougé un petit peu. Et donc cette frange de lumière, cette fraction de frange de lumière qui apparaît au passage d'une onde gravitationnelle, c'est la façon d'enregistrer ce frémissement de l'espace-temps au passage d'une onde gravitationnelle. Donc voilà le principe. Maintenant, le travail. Parce que le travail pour calculer ces ondes gravitationnelles est tout à fait similaire, c'est la version du XXe siècle, des travaux de Le Verrier au XIXe par exemple. Mais ce n'est pas compliqué, une fois de plus. Voilà l'accélération du pulsar, disons. Alors, cette accélération, c'est la force de gravitation qui s'exerce sur lui, à l'ordre le plus bas, c'est-à-dire si on ne tient pas compte des effets de la relativité générale, cette accélération est l'accélération de Newton, ici, que vous reconnaissez, la force proportionnelle l'inversement proportionnel au carré de la distance, avec la petite flèche sur le vecteur n, là, qui est en caractère gras ici. Et puis ensuite, il y a les corrections de la relativité générale, c'est-à-dire qu'il faut faire parler ces équations g mu nu égale t mu nu, il faut les décortiquer, il faut les itérer. Et on a les corrections. Alors la correction qui vient là, d'après, c'est celle qui vous donne par exemple l'avance du périhélie des astres. Mais après ça, il faut aller plus loin. Et ça, c'est un travail de très très longue haleine, en fait, qui a commencé en 1916 et qui s'est achevé cette année. Ou l'année dernière, même cette année. Donc voilà la correction à la correction, mais il faut aller encore plus loin. Il faut aller à l'ordre 1 sur ces 5, à la correction de la correction de la correction, la première. Il faut même aller encore plus loin. Alors la première correction, c'est donc ça, c'est une toute petite force qui se rajoute aux précédentes, et c'est cette force qui fait que l'orbite rétrécit. Cette force, des bouts avaient été calculés dans le passé, mais en fait, elle a été obtenue pour la première fois sous forme complète en 1982. Pour obtenir la correction à la correction, pour ce ralentissement de l'orbite, qui est nécessaire, si on peut avoir une chance de détecter les signaux dans les détecteurs Virgo, etc., eh bien, cette correction à la correction a été obtenue, vous voyez, au début des années 2000, donc très récemment. Et voilà l'expression que l'on obtient. Donc il a fallu 20 ans pour obtenir ça, et des milliers d'heures de Mathematica. Mais en fait, ce n'est pas suffisant. pour vraiment savoir, pour détecter ce signal, il faut connaître ce signal qui va tomber dans le détecteur LIGO et Virgo avec une précision exquise. Parce que si on ne le connaît pas avec une précision exquise, on ne le détectera pas parce qu'il sera noyé dans le bruit. Donc quand vous cherchez une aiguille dans une botte de foin, vous avez une chance de trouver l'aiguille que si vous savez exactement les propriétés de l'aiguille. Ça aide. Donc c'est ce qui se passe là. Et donc ce qu'il faut faire, c'est connaître ce qu'on appelle la phase de l'orbite, c'est-à-dire le temps que met le pulsar pour faire un tour, à une précision extraordinaire qui oblige d'abord à calculer le champ de gravitation, c'est-à-dire la métrique d'espace-temps, loin du système, avec une précision très grande, et ensuite calculer la luminosité, c'est-à-dire l'énergie rayonnée par ce champ, qui au premier ordre est donnée pour les experts parmi vous par la première formule du quadrupôle d'Einstein. Il faut aller plusieurs ordres au-delà de ça. Et une fois qu'on a l'énergie rayonnée par tout ce champ, on peut se dire l'énergie rayonnée par le champ, en fonction du quadrupôle par exemple, ou de certaines propriétés de mon système, va être contrebalancé par une perte d'énergie de mon système, que je calcule par cette formule-là. Et après ça, je connais donc la perte d'énergie de mon système. Et si mon système est en orbite circulaire, ce qui est le cas là en fin de course, à ce moment-là, je peux vraiment calculer le rétrécissement de mon orbite. Donc voilà, le 1, vous voyez, il y a un facteur devant. Le 1, c'est celui qui avait été trouvé par Einstein en 1915. Et la suite, eh bien, a été obtenue, vous voyez, assez récemment, entre 2000 et 2004 aussi. Donc c'est un programme d'extrêmement longue haleine, où je dois dire l'école française, pilotée entre autres par, surtout par Thibaut Damour, a fait des merveilles. Mais ça n'est pas encore suffisant. Parce que ça, ces calculs que je vous ai montrés, c'est des calculs analytiques, où on décortique les équations d'Einstein à la main, ou en utilisant des programmes informatiques légers, style Mathematica, qui fait du calcul symbolique. Mais, vous avez vu le petit film, à la fin, les deux étoiles sont vraiment l'une dans l'autre. Et donc, à ce moment-là, il n'est plus question d'approximer les équations d'Einstein, même à une grande précision. Il faut vraiment les résoudre complètement. Et ça, on ne peut faire ça que numériquement. Alors, la relativité numérique est une branche de la relativité en plein essor, et qui, elle, nécessite des ordinateurs parmi les plus puissants du monde. Aux États-Unis, ça s'était appelé le Grand Challenge. Mais je dois dire qu'il y a une école française, pilotée en particulier par Silvano Bonazzola et Éric Gourgoulon à l'Observatoire de Paris, qui, avec des ordinateurs pas si puissants que ça, est arrivée à faire quasiment aussi bien. Ainsi d'ailleurs qu'un groupe de Japonais, piloté par Shibata. Donc vous voyez ici quelques deux exemples. Ça, c'est des exemples donc, de calculs numériques où on résout les équations d'Einstein. Là, c'est deux étoiles à neutrons qui se rapprochent. Donc, étape par étape, on résout les équations d'Einstein et qui coalescent. Et voilà la version donc mathématisée de ce film à la Walt Disney que je vous avais montré tout à l'heure. Ça, c'est pour le cas de deux étoiles à neutrons qui coalescent. Mais il n'est pas du tout exclu qu'il y ait aussi des systèmes binaires qu'on ne voit pas actuellement, qui soient des systèmes de deux trous noirs. Alors là, on ne les voit pas parce qu'ils n'ont pas de jet de champ magnétique ou de particules comme les étoiles à neutrons. Mais quand les deux trous noirs, eux aussi perdent de l'énergie, parlent de la même façon, arriveront à coalescer, à ce moment-là, il y aura une énorme bouffée d'onde gravitationnelle. Et c'est aussi des calculs qui sont faits numériquement. Et voilà donc un exemple de calcul fait par le groupe de Meudon. Et une fois qu'on a fait ces calculs numériques, eh bien on peut définir le signal gravitationnel attendu dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles sur Terre. Par conséquent, vous voyez ces ondes gravitationnelles, un projet de physique théorique qui a suivi tout le siècle en fait, et ces projets expérimentaux en cours, ces ondes gravitationnelles sont un enjeu énorme, parce que le jour où on les détectera sur Terre, ça sera une nouvelle fenêtre sur l'univers, parce que c'est un signal qui n'est pas lumineux, c'est une nature complètement différente, c'est des petites friselures de l'espace-temps, et non pas de la lumière, même sur radio, gamma ou autre. Et donc ça permettra de mieux comprendre les étoiles à neutrons, parce que vous pensez bien, par exemple, quand le signal gravitationnel, quand deux étoiles à neutrons se rentrent l'une dans l'autre, dépend de la structure interne des étoiles à neutrons, et donc ça donnera des indications même sur la composition nucléaire, les propriétés nucléaires de la matière. Ça permettra aussi d'en savoir plus sur les trous noirs, les sursauts gamma, voir les débuts de l'univers, parce qu'au début de l'univers, beaucoup d'ondes gravitationnelles ont aussi été émises. Mais je n'en dirai pas plus sur l'aspect cosmologie. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu des succès de la relativité générale. Tout va bien, Madame la Marquise, qu'est-ce qui ne va pas? Alors je serai brève sur ce qui ne va pas, faute de temps, et aussi parce que ça va être des sujets qui ont été abordés ou qui vont être abordés bientôt. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un premier défi de la relativité générale qui est en cosmologie. François Boucher a fait une conférence dimanche sur le sujet, donc je n'en dirai pas grand-chose. Mais ces défis, on peut peut-être les mettre dans deux classes. La première classe, c'est que comme François Boucher l'a certainement détaillé dimanche, les mesures faites en des paramètres cosmologiques, un foison d'observations en cosmologie, tendent toutes à montrer actuellement quelque chose qui est très mystérieux, à savoir que la matière qui compose l'univers est complètement inconnue au bataillon. C'est un mélange de 30% de matière noire, dite non baryonique, qu'on n'a jamais vue sur Terre, et les 70% autres, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire, ou parfois une constante cosmologique. On ne sait pas non plus ce que c'est. Et la matière dont vous et moi et les étoiles sommes faits, eh bien, représente qu'une fraction, un minuscule pourcentage de cette matière totale. Donc ça, c'est mystérieux. Alors, ou bien ça veut dire que grâce à la cosmologie, en utilisant la relativité générale, on apprendra plus de choses sur la matière, c'est la tendance actuelle, on est optimiste. On parie sur les équations d'Einstein, on espère pouvoir les utiliser en cosmologie pour en savoir plus sur la matière noire et l'énergie noire. Ça, c'est le scénario optimiste. Le scénario pessimiste, c'est qu'en fait, la théorie qui sert de cadre pour interpréter ces mesures, à savoir la relativité générale, eh bien, a un bug quand il s'agit de traiter la cosmologie. Donc là, il y a peut-être une limite de la relativité générale. L'autre défi à la relativité générale est le défi de la mécanique quantique. J'ai prononcé le mot mécanique quantique une fois dans cet exposé, simplement pour dire qu'Einstein s'était consacré plus à rétablir le pont entre ciel et terre, à faire une nouvelle théorie de la gravitation, qu'au développement de la mécanique quantique. Mais ce pont magnifique que j'appelais le Golden Gate Bridge entre la physique terrestre et la physique du ciel, la relativité générale, n'est pas si parfait que ça, puisque cette relativité générale n'incorpore pas tout un autre pan de la physique du XXe siècle, à savoir la physique quantique. Ça, c'est la grande interrogation du XXIe siècle, à laquelle mes successeurs devront répondre, et auquel déjà un certain nombre de physiciens, beaucoup de physiciens même, pensent avoir des idées. Et c'est samedi prochain, vous aurez une conférence ici de Kostas Barras, qui va vous parler de la théorie des supercordes, qui est une théorie qui est tout à fait en chantier, qui n'a encore pour l'heure aucun résultat concret, il faut bien se le dire, mais qui est l'espoir de la physique contemporaine pour essayer de réconcilier relativité générale et physique quantique. Mais en attendant, tous les tests auxquels la relativité générale a été soumise ont été passés avec succès. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. Oui, une devant, là.
Vous m'entendez bien?
Oui, oui.
Madame, je suis là. Voilà. Bonsoir, madame. Donc, et merci pour cet exposé. Je vous remercie de nous avoir émerveillés avec ce magnifique savoir. Grâce à lui, nous espérons décrire des trajectoires tout à fait lumineuses dans l'espace de la connaissance universelle. Donc je vous remercie. J'ai une foule de questions à vous poser, mais je crois que je vais me limiter à deux, si vous le voulez bien. La première, c'est... Je voulais savoir, vous dites que la gravitation courbe l'espace, n'est-ce pas? Vous avez dit ça tout à l'heure. Et je voulais savoir comment, dans un espace courbe, si je lâche mon stylo, il se met en mouvement. Voilà, donc ça c'était la première question. Est-ce que je pose la deuxième tout de suite ou bien est-ce que j'attends la réponse?
Si la seconde question est liée à la première, allez-y.
Alors, voilà, vous avez abordé ça sous un peu une autre façon, en disant que quand un corps tombait, quand Einstein tombait avec sa pomme, par exemple, ils étaient tous les deux...
C'était pas Einstein, c'était le couvreur.
Oui, enfin bon, n'importe qui si vous voulez.
Sinon la relativité générale n'aurait pas été inventée.
Voilà, donc ils étaient en mouvement libre l'un par rapport à l'autre. Ça, c'est un peu équivalent à dire que finalement l'accélération d'un corps quelconque est équivalent à un champ de gravitation. Je crois avoir lu ça quelque part aussi. Alors je voulais savoir si quand un véhicule accélère ou ralentit, est-ce qu'il courbe l'espace autour de lui ou bien si c'est simplement une vision conceptuelle d'Einstein. Et puis une petite question subsidiaire, si vous le permettez, je voulais savoir si vous aviez un site internet où on pouvait consulter toutes ces équations. Voilà, merci.
Ah, la troisième question est facile à répondre, je n'ai pas de site internet, mais enfin je pense que...
Sur l'UTLS, vous pourrez
le voir. Ça sera sur le site de UTLS. Alors, pour la première question, quand vous dites dans un espace courbe, qu'est-ce qui se passe quand je laisse tomber mon crayon? Je pense que la réponse à votre question, c'est que c'est l'espace-temps qui est courbé. Donc en fait, il faut maintenant imaginer la description de la physique, non pas comme des phénomènes qui se passent dans un espace avec un paramètre qui est le temps le long d'une trajectoire. Il faut considérer l'espace-temps comme un bloc. Le temps n'existe plus vraiment, on a un bloc. Et à ce moment-là, la trajectoire dont je parle est une trajectoire courbe dans l'espace-temps. Donc, quand on dit, c'est dans ce cadre, il ne faut plus dire tomber dans l'espace, il faut dire avoir une trajectoire dans l'espace-temps, une ligne d'espace-temps. Et alors, s'il n'y avait pas de courbure, la ligne dans l'espace-temps serait une droite. Et la pente de cette droite, d'ailleurs c'est plutôt des pentes plutôt comme ça, la pente de cette droite vous donne la vitesse à laquelle votre crayon roule sur la table comme le faisait Galilée, d'accord ? Enfin, se déplace sur la table. Mais si ce mouvement rectiligne uniforme est une droite, et à ce moment-là, les ellipses de Kepler, la façon dont la Lune tombe dans l'espace, dans cette description-là, ça devient une espèce de spirale, parce que le temps en fait partie. Et donc c'est... l'ellipse de Kepler que vous pouvez voir comme une spirale, eh bien cette spirale, c'est pas une droite, hein, c'est une trajectoire dans cet espace courbe. Alors, et la deuxième question, quand vous dites qu'est-ce qui se passe quand ma voiture accélère, est-ce que je courbe l'espace-temps? Alors la réponse, enfin c'est comme ça que je vois la réponse en tout cas, c'est de dire que effectivement quand votre voiture accélère, vous pouvez très bien croire que vous êtes subitement dans un champ de gravitation. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que l'espace-temps est courbé. Parce que pour vraiment courber l'espace-temps, il faut une vraie masse. Et ces accélérations-là qui sont qui sont purement cinématiques, peuvent vous donner pendant un petit bout de temps l'impression que vous êtes dans un champ de gravitation, mais si votre voiture est accélérée pendant un temps suffisamment long, ça sera un peu l'inverse que je disais quand les pommes se rapprochaient, vous apercevrez que les pommes ne se rapprochent pas, et que donc vos parallèles restent bien parallèles, et que donc en fait votre espace-temps était plat, mais que vous aviez un mouvement accéléré dans un espace-temps plat. J'espère que ça vous éclaire un peu.
Sur la droite.
Je me demandais pourquoi la lumière subissait la gravitation.
Pardon ?
Pourquoi la lumière subissait la gravitation ? alors qu'en fait, elle est faite de photons sans masse. Est-ce que la réponse est justement une question de temps ? Est-ce que c'est dans... Normalement, ce sont des masses qui subissent la gravitation, qui s'attirent.
Oui, mais alors...
Si la lumière n'a pas de masse, comment ?
Oui, mais elle a une énergie. Or, dans le cadre de la relativité, même restreinte, mais qui est toujours valable en relativité générale, bien sûr, E égale MC2, donc de l'énergie...
Ah oui.
C'est ce qui courbe l'espace-temps, je crois même l'avoir mentionné, c'est ce qu'on appelle le tenseur de masse-énergie. Et donc les photons ayant une énergie subissent la gravitation.
Les mesures en astrophysique qui permettent de dire que G est constant ou que G sur C4 est constant. Et deuxièmement, est-ce que le problème de l'inversion des ondes gravitationnelles est quelque chose de réellement soluble ? Parce que j'ai personnellement connu des problèmes en géophysique dans lesquels l'inversion est impossible.
Alors pour la première question, la variation des constantes, à dire vrai, ça je ne suis pas vraiment spécialiste, je ne sais pas trop quelle référence précise vous donnez à ce sujet. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a aucune mesure actuelle qui signale une variation de la constante grand G. Et il y a, je vous recommande la lecture d'un livre qui s'appelle Les constantes, je crois, à ce sujet. Donc je suis désolée, sur ce point-là, je ne peux pas vous répondre plus précisément. Alors sur le problème d'inversion des ondes gravitationnelles, j'imagine que ce que vous voulez dire, c'est que quand le signal arrive dans le détecteur, évidemment, il faut détricoter le signal, si je puis dire, pour en avoir les caractéristiques de l'objet. Alors, ça s'appelle, c'est tout le problème de l'analyse du signal des ondes gravitationnelles. Ce que l'on sait, c'est qu'il faut prédire ce signal avec une très très grande précision, c'est pour ça que je vous ai montré ces équations atroces. Mais pour faire cette inversion dont vous parlez, je sais que c'est un problème très difficile, et où il y a en fait deux communautés qui essayent de se coordonner, parfois s'affrontent un peu, mais essayent de coordonner les efforts. La communauté des astrophysiciens, qui eux ont l'expertise d'astrophysiciens pour essayer de décoder des signaux, par exemple, qui viennent des quasars ou autres. Et puis l'expérience des physiciens des particules élémentaires, qui eux aussi ont une grande expertise pour faire de l'inversion de signal. Ce qui est certain, c'est que c'est un problème qui n'est pas encore tout à fait résolu pour les ondes gravitationnelles.
Une question, oui, sur la droite.
Oui, je voudrais poser, dans cette théorie, les gravitons n'interviennent pas. Alors, il n'y a pas de particules qui permettent d'expliquer comme un photon. Quoi. Le graviton, ça serait l'équivalent du photon pour l'électromagnétisme. Mm-hmm. Là, il n'y a pas de théorie de graviton, à ce moment-là.
Non, enfin oui et non. Si vous voulez, dans la théorie de Maxwell, due à Maxwell, il n'y a pas de photons. Il y a des ondes électromagnétiques. Pour parler de photons, il faut déjà avoir une notion de mécanique quantique. Donc les équations de la relativité générale d'Einstein que je vous ai montrées sont des équations classiques, dans le sens qu'elles ne sont pas quantiques. Et par conséquent, on peut parler d'ondes gravitationnelles comme on parle d'ondes électromagnétiques. Mais dire que ces ondes sont à la fois ondes et corpuscules, comme la lumière ou les électrons d'ailleurs, ça c'est faire un saut en avant, qu'évidemment tout le monde s'est empressé de faire, parce que ces ondes gravitationnelles, quand elles se propagent sur un espace quasiment plat, elles ressemblent énormément aux ondes électromagnétiques. Donc de même qu'on peut associer un photon aux ondes électromagnétiques, dans le cas des champs faibles, on peut être tenté d'associer un graviton aux ondes électromagnétiques. Mais tout ça sera parfaitement cohérent le jour où on aura une théorie complète de la gravitation en champ fort quantique. Et ça, c'est Kostas Bakas qui vous en parlera samedi.
Alors, une question en bas, après, on en aura une là aussi.
C'est une question toute simple. C'est au sujet des heures dans pour la personne qui est dans le TGV, la personne à l'arrêt.
Oui.
Quand le TGV va s'arrêter, est-ce que la montre de la personne qui était dans le TGV va redevenir à l'heure, à la même heure ?
Non, c'est le célèbre paradoxe des jumeaux de Langevin, et qui n'est plus du tout un paradoxe maintenant, parce que ça a été vérifié un nombre incalculable de fois expérimentalement. Votre montre et la mienne ne battent pas la même heure. Alors évidemment, c'est assez infime, donc ça ne voit pas trop. Mais ça se mesure. Et par exemple, c'est une expérience qui est due à Carroll et Halley en 1970, dans les années 70, j'ai oublié, où on a mis une horloge extrêmement précise, bien plus précise que votre montre et la mienne, dans un avion. Cet avion a fait le tour de la Terre, deux avions. Il y en a un qui a fait le tour de la Terre dans ce sens-là, l'autre qui a fait le tour de la Terre dans ce sens-là. Donc, à cause de la rotation de la Terre, les vitesses relatives par rapport à une montre de même précision sur la Terre n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et puis, ils étaient aussi, étant donné qu'ils étaient en altitude, leur montre battait différemment, également parce qu'ils étaient dans un champ de gravitation différent de l'horloge qui était sur Terre. Et ce sont des effets, en faisant le tour, c'est des effets de l'ordre de la nanoseconde et qui ont été parfaitement mesurés. Oui.
Une question en haut, s'il vous plaît.
Bonsoir, merci d'abord. J'ai eu des questions assez simples. D'abord, je voulais savoir, j'ai raté les 15 premières minutes, j'espère que vous n'avez pas parlé, mais juste savoir s'il y a une différence entre gravité et gravitation. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces deux termes? Est-ce qu'il y a un abus de langage, quelque chose comme ça?
Ah, vous avez raté mon premier transparent.
Bon, voilà. Excusez-moi.
Non, j'ai fait une distinction un petit peu académique, je dois dire, entre le mot gravité et le mot gravitation, parce que je suis allée voir le petit Robert cet après-midi avant de venir, et j'ai vu que le terme gravité était un terme qui remontait au Moyen-Âge, tandis que le terme gravitation date de 1722, donc après les Principia de Newton. J'en ai déduit hardiment, j'espère justement, que le mot gravité désignait la cause qui fait tomber les pommes par terre, tandis que le mot gravitation, on était obligé d'inventer un mot nouveau, parce que Newton avait inventé un concept nouveau, à savoir que cette cause qui fait tomber les pommes était la même qui faisait tourner la Lune autour du Soleil. Donc il y a eu un tel saut conceptuel entre ces deux notions qu'on a inventé un nouveau mot. Donc voilà la distinction que moi je fais entre gravité et gravitation, mais c'est vrai qu'assez souvent les deux termes sont interchangés.
D'accord, parce que ma deuxième question, c'est parce qu'en fait, moi je fais un peu d'économie. Est-ce que vous êtes au courant qu'en économie, ce qu'on appelle les équations de gravité, qui sont plus ou moins l'application des équations de gravité de Newton, pour le commerce et pour la finance même maintenant, des résultats assez incroyables? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce que vous avez un avis à tout hasard?
Non, j'espère que les dividendes tombent. j'ignore ça, j'en suis heureuse.
Une question au milieu.
Bonsoir. Je voudrais savoir, est-ce que la mécanique newtonienne ou la relativité explique les contraintes de marée?
Explique?
Les contraintes de marée entre les planètes, les contraintes de marée.
Les contraintes de marée? Ah oui, ouais. Oui. C'est parmi les très grands succès de la physique newtonienne, les deux siècles d'or là, que j'ai décrits en un transparent. Je n'ai parlé que de la découverte de Neptune, mais en fait un très très grand succès, ça a été aussi l'explication des marées par Newton d'abord. Mais ensuite, c'est un problème très compliqué, les marées. Et en fait, c'est Henri Poincaré, ce mathématicien extraordinaire, qui a vraiment bien nettoyé, si je puis dire, toute la théorie newtonienne des marées. Les corrections einsteiniennes au problème des marées sur Terre n'ont jamais été étudiées parce que c'est des effets négligeables. Et sur les corps compacts, où la gravitation à la relativité générale doit être utilisée, par exemple pour étudier les structures des étoiles à neutrons, à ce moment-là, ce sont des corps tellement rigides que, par exemple, dans le système binaire que je vous ai montré, quand ils tournent l'un autour de l'autre, quand ils sont relativement loin, ils ne sont pas déformés par les marées, parce qu'ils sont trop compacts, trop rigides. Mais comme vous l'avez vu, quand ils commencent à coalescer, à ce moment-là, il y a des effets de marée, mais qui sont calculés à ce moment-là dans le cadre de numériquement, voilà, dans le cadre de la relativité numérique.
D'accord, je vous remercie.
On va prendre encore deux questions. Une sur la gauche, là-bas, et une en haut.
Bonjour. J'ai deux questions assez simples. Déjà, est-ce qu'on connaît les causes de la gravitation? Et deuxièmement, est-ce que la relativité générale s'applique pour les autres dimensions de l'univers ?
Alors, quelle est la cause de la gravitation ? On peut répondre comme Newton peut-être, hypothèses non fingo, c'est-à-dire que j'ai une théorie, je ne forge pas d'hypothèses, je ne bâtis pas d'hypothèses quand j'en ai pas besoin. Et un des grands mérites de la mathématisation de la nature, je pense, c'est qu'on peut donner des mots, faire parler les équations avec des mots tirés du langage courant, mais ce qui importe, c'est l'équation elle-même. Donc, quand vous avez écrit une équation comme celle de Newton, vous écrivez F égale ma, et ensuite F égale moins g mm prime sur r carré. F, vous pouvez appeler ça la gravitation. Il n'y a pas à aller chercher plus loin, je pense. Maintenant, votre deuxième question, c'est pour savoir si la relativité générale s'applique aux autres dimensions de l'univers. Dans cet exposé, je me suis limitée à la relativité générale classique, où on se contente d'un espace-temps à quatre dimensions. Mais Kostas Varas, samedi, vous parlera certainement d'espace-temps à plus de quatre dimensions, parce que cette fameuse théorie des cordes en chantier, qui un jour, on l'espère, pourra réconcilier mécanique quantique et relativité générale, cette théorie actuellement ne peut vivre, encore un mot un peu animiste, mais c'est le langage des physiciens, ne peut vivre que dans un espace-temps à dix dimensions. Alors évidemment, si quelqu'un vous présentait comme ça une théorie qui n'est cohérente que dans un espace-temps à dix dimensions, vous diriez à ce monsieur ou à cette dame, retournez cultiver votre jardin. Mais en fait, cette théorie nouvelle des cordes a tellement de beauté cachée, un peu cachée, qu'on est arrivé à se convaincre qu'effectivement, l'espace-temps devait avoir dix dimensions. Alors comment se fait-il qu'on n'en voit que quatre ? Le temps, la hauteur, la largeur et la profondeur, où sont passés les six autres. Alors ça, c'est tout un problème. Les six autres, ou bien elles peuvent être ce qu'on appelle compactifiées, et la compactification, c'est quelque chose de relativement simple. Vous voyez, ce verre est une surface à deux dimensions. C'est un cylindre, grosso modo. Mais vous qui êtes tout là-bas, dans le fond, vous le voyez de tellement loin que vous le voyez comme un seul trait, une ligne. Et une ligne, ça a une dimension. Donc ça veut dire que quand vous avez une surface à deux dimensions, mais que le rayon, ce qu'on appelle de compactification, est très 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 petit, et que vous voyez de suffisamment loin, c'est-à-dire avec des instruments, des yeux, des énergies suffisamment faibles, ben vous ne voyez pas ce rayon de compactification. Donc c'est une façon de cacher les dimensions supplémentaires. Une autre façon de cacher les dimensions supplémentaires, c'est de dire que, eh bien oui, l'espace a dix dimensions, mais en fait, on est confiné dans une surface plongée dans cet espace à plus de dimensions, on n'a pas le droit d'en sortir. Alors à ce moment-là, vous êtes comme la petite mouche sur la table. Si vous êtes la petite mouche sur la table et que vous n'avez aucun moyen de voir ce qui se passe en dehors de la table, ben vous êtes convaincu, vous vivez dans un univers à deux dimensions, enfin un espace à deux dimensions, sans savoir qu'en fait, il y en a une troisième. Donc voilà des façons de cacher les dimensions.
Une dernière question ?
Madame, je voudrais revenir sur les ondes gravitationnelles. Oui. Par rapport au dispositif de mesure que vous avez présenté tout à l'heure, en fait, c'est deux. Je me souviens plus du nom exactement, mais enfin.
Un interféromètre.
Voilà, qui était disposé sur 3 km sur un carré de 3 km de côté. Oui. En fait, est-ce que les mesures ressemblent à ce qui se passe quand on regarde l'espace avec un télescope ou un radiotélescope, c'est-à-dire qu'on peut focaliser sur une partie de l'espace et ne mesurer que ce qui se passe dans cette direction, ou bien est-ce qu'en fait on mesure la totalité des ondes gravitationnelles de l'univers? Dans ce cas-là, il y aura des sérieux problèmes, je suppose, à séparer toutes les différentes contributions.
C'est une bonne question. En fait, si vous n'avez qu'un seul interféromètre, vous voyez, et si une onde tombe dessus, fait bouger les miroirs et que vous voyez quelque chose, à ce moment-là, vous aurez peut-être une vague idée d'où ça vient, mais extrêmement vague. Et c'est pour ça que c'est un effort international. Il faut avoir des détecteurs comme ça, un peu partout sur la planète. Parce qu'à ce moment-là, si une onde gravitationnelle tombe sur la Terre, elle arrivera par exemple en Italie, une fraction de milliseconde plus tôt ou plus tard, en Californie ou au Texas où il y a un autre détecteur. Et donc à ce moment-là, on peut faire de la triangulation comme on le fait en fait en radioastronomie avec ce qu'on appelle les Very Long Base Interferometers en radioastronomie. En radioastronomie, c'est pareil, vous avez des normes dishes en anglais. Paraboles, voilà. Et qui sont séparées de très grandes distances. Et c'est par triangulation qu'on peut savoir d'où vient le signal. Ça sera pareil pour les ondes gravitationnelles.
Nathalie Deruel, merci beaucoup.